Bien, la deuxième partie de cette émission sera normalement moins grave que ce premier échange, pour lequel je vous remercie tous les deux, Aubry et Juliette, même si on va parler, cela dit à présent, de gentrification agressive, d'invisibilisation des femmes et de minorités, ainsi que de podcasts complotistes, et oui, c'est à présent de Zootopie 2, dont on va discuter, suite de Zootopie, un film sorti en 2016, produit par les studios Walt Disney, et réalisé par Jared Bush et Byron Howard, duo de nouveau à la barre pour ce second volet. 9 ans déjà se sont ainsi écoulés depuis les dernières aventures de la Haze, enfin de la Lapine, Judy Hopps et du renard Nick Wilde, mais nous les retrouvons ici tout juste une semaine après les événements du premier film. Donc pour rappel, ce duo mal assorti avait sauvé Zootopie, ville tentaculaire et a priori utopique, où vivent en harmonie des animaux anthropomorphes, protégés par des zones climatiques permettant ainsi aux ours polaires de côtoyer les lions. Judy Hopps, alors nouvelle recrue dans la police de la ville, avait mis le doigt sur une vaste conspiration qui visait à rompre cette harmonie et à faire de cette utopie une vaste cité totalitaire dirigée par un petit mouton. Bon, j'ai pas vraiment le temps d'aller dans le détail, mais un peu comme une Léa Drucker version lapin, pour reprendre le film dont on parlait la semaine dernière, donc un peu comme Léa Pindrucker, elle décidait d'aller jusqu'au bout de son enquête, seule contre tous, contre par exemple le chef Bogo, le buffle chef de la police, et avec l'aide d'attachants personnages comme le gros léopard gay Clawhauser, la musaraigne Mr. Big, parrain d'un réseau du crime souterrain, ou encore le paresseux Flash. Je vous redis tout ça parce que ça a son importance pour comparer des scénarios qui ne sont pas très éloignés entre le 1 et le 2. Dans ses recherches, Judy fait la rencontre de Gilles Lelouch. Je vais arrêter les vannes. Dans ses recherches, Judy fait la rencontre de Nick Wilde, un renard roublard qui n'a pas sa langue dans sa poche, ni son pareil pour monter des petites combines et des arnaques. Mais avec son charisme à toute épreuve, dans la droite lignée d'un autre renard de chez Disney, Robin des Bois évidemment, sans doute le meilleur dessin animé Disney, mais c'est un débat qu'on peut avoir plus tard. Bref, avec ce charisme, Nick avait fini par devenir l'ami de Judy, tout comme sa ténacité, à elle avait sorti le renard de son côté mec poseur un peu relou. Et, magie de Walt Disney, le renard finissait par rentrer dans la police, rassurant ainsi le fils de Léa Drucker dans Dossier 137. Bien. Zootopie 2 commence donc une semaine après, et déjà le duo fait des remous, hein. Bon, on n'a jamais vu un renard dans les forces de police, les collègues ne semblent pas très contents, et Judy et Nick paraissent dysfonctionnels aux yeux du chef Bogo, qui les envoie en thérapie de groupe pour partenaires flics incompatibles. Pendant ce temps, nos deux amis se lancent sur une nouvelle affaire. Pour la première fois en 100 ans, un serpent s'est montré à Zootopie, alors même que ces animaux en ont été bannis par le fondateur de la ville, Ebenezer Linksley. Les richissimes héritiers d'Ebenezer Linksley vivent dans un château à Tundra Town, donc dans le quartier froid, qu'ils comptent bien étendre ce quartier aux dépens des quartiers humides et populaires du marais de Bayou. Le serpent donc a tenté de s'emparer du journal d'Ebenezer Linksley contenant le brevet du zonage climatique lors d'une rare exposition de ce journal à un gala d'anniversaire, donc les 100 ans de Zootopie. Par une suite de péripéties plus ou moins vraisemblables, Judy et Nick se retrouvent avec le journal en fugitif pour avoir laissé le serpent s'échapper, puisqu'ils sont soudainement convaincus que ce serpent est moins mauvais, moins malicieux qu'on veut nous le faire croire. Voilà donc nos héros poursuivis tout à la fois par le serpent, par la police et par les Linksley qui visiblement sont prêts à tuer Judy et Nick pour les empêcher de découvrir un secret qu'on devine assez énorme. Voilà pour le résumé. Alors pour ce qui est de mon avis sur le film, avant de vous demander le vôtre, je dois d'emblée reconnaître que j'ai passé un moment honnête. J'ai été diverti et le film m'a paru vraiment bien moins long que l'heure 50 qu'il ne dure. J'étais assez surpris d'ailleurs de voir que ça durait 20 minutes de plus que ce que j'avais ressenti. La technologie d'animation est toujours aussi splendide. En réalité, les Walt Disney Animation Studios avaient créé de part en part un logiciel pour animer les fourrures des animaux du premier film, notamment, et créer ainsi poil par poil un pelage vraisemblable au lapin, par exemple, mais à tous les autres aussi. Bon, là, ils l'ont réutilisé et c'est vrai que ça fonctionne quand même très bien. Les trouvailles et les détournements sont toujours aussi malins, donc pour ça, c'est super. Maintenant, sans mentir, j'ai trouvé aussi, dans l'immédiat, en sortant vraiment ce film-ci, très inférieur en qualité à son prédécesseur, ou au souvenir que j'avais de son prédécesseur, qui était, il me semble, beaucoup plus drôle, et se permettait bien plus de blagues qu'il y en a ici. Et puis dans ce 2, le scénario m'a paru bien plus convenu, bien plus déjà vu, sans parler de l'ignoble chanson de Shakira qui m'a donné envie de me taper la tête contre les murs molletonnés du pâté Bellecour. On pourra en reparler du scénario, mais j'avais un peu l'impression de connaître la trajectoire de certains personnages par cœur. Plus le fait de faire comme s'il n'y avait qu'une semaine entre les deux volets donne lieu à pas mal d'incohérences. Donc tout ça m'ennuyait assez. Et puis en fait, le charme opère sur le long terme. C'est pareil, j'ai vu quand jeudi. Oui, jeudi. Et les thèmes abordés, en fait, qu'on pourra évoquer, me paraissent assez forts quand même pour un film qui est destiné aux enfants, tout en étant subtil. Et d'une façon générale, il est difficile quand même de résister au charme de ces deux personnages et à tout le travail de citation cinématographique qui s'y fait en continu, même si effectivement ça reste un film, une machine, hein, qui va engranger énormément d'argent pour Disney, qui laisse la porte ouverte également à de nombreuses autres suites, puisque en fait se rendre compte que les reptiles étaient absents du premier film permet de se rendre compte que là, par exemple, les oiseaux ou les primates ne sont pas non plus là, à Zootopie, autant de pistes à creuser. Bref, avez-vous, quant à vous, résisté ou non au charme de ce Zootopie 2 ? Élise, bonsoir, bienvenue parmi
bonsoir.
Nous.
Cette
fois-ci, complètement en direct, enfin en direct, avec nous en tout cas. Écoute, toi qui demandais à la fin de ta chronique, au début de ta chronique sur Duel à Monte Carlo del Norte, de faire plus d'animation au comptoir, je t'en prie, lance-toi, qu'as-tu pensé de ce film ?
Alors, je vais commencer avec un point négatif pour rebondir sur ce que tu as dit. Justement, le film passe vite, mais moi j'ai trouvé parfois que ça allait trop vite. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le temps de découvrir les différents univers, parce qu'en fait on découvre plein de nouvelles zones de Zootopie. Et je trouvais ça un peu dommage que, par exemple, le marais il soit assez rushé, même Toundraville, enfin tout. En fait, il y a un enchaînement de gags, de références à chaque fois qui fait qu'on n'apprécie pas vraiment les nouveaux univers dans lesquels on est. Donc moi, dans ce sens-là, j'ai trouvé un peu que c'était un dessin animé pour iPad Kid, quoi. Qu'il y avait un enchaînement de petites scénettes. Voilà. Et d'ailleurs, au Pâté Bellecour, il y avait des iPad Kid. Je pense que les gens ne voulaient pas rester jusqu'à la fin du générique pour voir la scène de fin. Bref.
C'est vrai qu'il y avait un gars qui faisait des vocaux sur toute la première heure du film. Il était sur Insta. Il est parti pendant le film, heureusement. Bref, pardon, je t'en prie.
On va pas parler des gens qui sont dans les salles du Pâté Bellecour. On pourrait en écrire une thèse, bref. Et je me dis que peut-être qu'avec... Enfin, soit... Ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y avait à la fois des refs au 1, au premier opus, et à la fois, il y avait quand même une histoire originale avec une volonté de... Enfin, c'est... Certes, le scénario est recyclé, mais en termes d'univers, tout n'était pas recyclé. Mais je me dis qu'ils auraient peut-être pu faire peut-être moins de refs au 1 et on aurait plus après apprécié les nouvelles spécificités du 2 ou alors vraiment assumer le fait qu'on refasse un peu le 1. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Pour le scénario, je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, c'est globalement la même trame. C'est-à-dire que, enfin déjà en termes de plot twist, c'est exactement le même plot twist. Ah, en fait celui qu'on pensait qu'il était gentil, il est méchant à la fin.
Voilà. Oui,
c'est vrai que c'est...
En plus moi je me suis fait spoil avant.
D'accord.
Voilà.
Non, parce que je trouve que pour le coup il est assez bien caractérisé. Enfin tu t'attends pas forcément. J'ai pas été surpris, mais disons que quand la première fois que je l'ai vu je me suis dit ah. Est-ce qu'on va avoir droit à ce truc ? Et puis comme après, il est longuement caractérisé comme un gentil, j'ai quand même eu le petit twist.
La petite surprise.
Pardon, vas-y.
Okay. Et sinon, bah, y a quand même pas mal de points positifs. Moi, j'ai beaucoup aimé l'attention portée à la particularité des différentes espèces. C'est-à-dire que, par exemple, mes trucs tout cons, mais quand ils arrivent dans le repère des reptiles, là, une espèce de bar un peu caché, clandestin, et quand Nick arrive... Il y a tous les geckos qui se collent sur lui parce qu'il a le sang chaud. Enfin, des tout petits détails comme ça, mais qui montrent que les animateurs se sont ainsi intéressés au comportement des espèces présentées. Et aussi, il y a beaucoup de gags de jeux d'échelle qui, moi, m'ont fait beaucoup rire. Quand, par exemple, l'énorme buffle prend un tout petit verre sur le plateau du hamster. Enfin, pareil, je trouve que ça, c'était bien amené. Beaucoup de références à la pop culture aussi qui étaient sympas, genre Ratatouille, Le Parrain, ça, mais il y avait aussi dans le premier, Le Silence des Agneaux, tout ça. Et moi, la chanson de Shakira, j'ai plutôt bien aimé en vrai. assez entraînant. Voilà. Donc, ouais, assez mitigé. Peut-être qu'ils auraient pas dû mettre autant de choses dans le film, enfin, en faire plus de choix pour qu'on apprécie un peu plus. Et voilà.
Merci beaucoup, Élise. Et toi, Juliette ?
Oui, alors pour ma part, moi, j'ai été vraiment conquise. J'ai trouvé que l'animation, elle était très spectaculaire. C'était très dynamique. Voilà, comme vous l'avez dit, enfin, je trouvais qu'il n'y avait pas de lenteur. Et moi, j'ai adoré les jeux de référence. Donc, bon, Ratatouille, je trouvais que ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais moi, le parrain, comme dans le premier, ça m'a régalé. Enfin, je trouvais ça génial. Bref, voilà. Moi, globalement, je crois que j'ai été cliente de tout. C'est-à-dire que le plot twist sur le méchant, je m'y attendais pas. Je sais pas si c'est parce que je suis naïve ou quoi que ce soit, mais ça a été une surprise. La scène d'émotion de retrouvailles, vraiment, la larme à l'œil. Ça a tellement marché sur moi. Voilà. Alors que pourtant, c'est cliché, la musique s'arrête. Enfin, vraiment, c'est too much. Mais ils se disent qu'ils tiennent l'un à l'autre et c'était trop pour moi. Et au niveau des sujets abordés, premier degré, je trouvais ça très intéressant. Parce que au début, j'étais un peu interrogée sur est-ce qu'ils vont de la même manière, parce que je suis allée voir Bugonia il y a une semaine et c'est la même question que je me suis posée, à savoir est-ce qu'ils vont vraiment donner raison aux complotistes, cette femme qui fait des podcasts sur YouTube complotistes, parce que dans notre ère, c'est quand même douteux de faire ça.
Oui, il y a une marmotte effectivement qui prend un rôle secondaire important, ouais. dans The Utopie 2, qui effectivement fait des podcasts complotistes.
Et en fait, elle a raison, quoi. Donc c'est quand même marrant. Mais au-delà de ça, oui, j'ai trouvé que, je sais pas, les sujets, bah, que ce soit, je sais pas, la corruption d'État, la corruption de la police, même, je suis allée jusqu'à lire que c'était un film pro-palestinien, ce qui n'est pas aberrant, enfin, c'est un film Disney, mais où vraiment il y avait ce truc-là de non, mais virer les gens de ce territoire, oui, c'est pas ok.
Il en fait d'une purification ethnique, en fait,
bah, de oui.
toute façon. Enfin, ouais. Les lynx, voilà. Se croient clairement supérieurs aux reptiles qu'ils veulent dégager.
Voilà, et finalement, la justice, enfin, pour que justice soit faite, il faut que les reptiles retrouvent leur village. Donc en fait, finalement, sous ces airs de pur divertissement, et pour moi ça en était un, je trouvais qu'en fait c'était pas un film si con à montrer à nos gosses non plus. Donc voilà, donc moi c'était un super moment de cinéma pour ma part.
Bah super, merci beaucoup à toutes les deux, je suis d'accord avec bah, globalement ton enthousiasme, Juliette, mais aussi avec les réserves que tu as, Élise, voilà, je suis dans le consensus. mais en réalité, bah, par exemple, moi sur la question de l'animation, la création des personnages aussi du film. J'ai été assez amusé par le personnage de la femelle castor. Ça s'appelle une lait comme la femelle du sanglier. Bref, on s'en fout. J'ai oublié son nom. Podcasteuse donc, et complotiste. Et je trouve assez intelligent en fait, de l'avoir amené d'abord par son émission. Enfin, c'est un gars qui parlera pas du tout aux enfants, pour le coup, mais qui parlera peut-être plus aussi aux adultes que nous sommes. ouais, exactement. Et de l'avoir amené par son émission, et pas juste comme l'ami rigolo et bruyant des héros, ce qu'on a souvent dans certaines suites, notamment de dessins animés ces derniers temps. Moi, j'avais été excédé par le petit Kleps dans le Chapeauté 2, voilà, si vous voulez savoir, film que je n'aime pas. Et en l'occurrence, vraiment, ce chien atroce était vraiment pénible, mais il avait ce même rôle de... Ok, les spectateurs et les spectatrices vont se lasser du duo original, il faut qu'on rajoute quelque chose qui va faire du bruit et qui va attirer leur attention continuellement pour iPad Kids. Et en l'occurrence, bon là, c'est cette marmotte Castor qui fait le taf, mais qui le fait bien, je trouve. Ce que j'aime bien aimer aussi, vous avez enfin, t'as parlé des références pop culture, il y a le personnage de Jesus, qui est une espèce de reptile, de lézard, hein, en gros, qui alors je l'ai vu en anglais le film, ce que je n'avais pas prévu de faire, mais parce que bon, séance tardive, qui est donc joué par Danny Trejo, qui est un acteur du cinéma américain, qui a joué notamment les rôles de Machete, enfin des... une gueule assez reconnaissable en réalité, il fait le méchant mexicain en gros dans le film américain, hein. et là c'est assez drôle de la voir, et j'ai été sensible dans le design de ces personnages, comme tu le disais, Élise, au travail effectivement que les animateurs ont fait sur la création de ces animaux et autour, c'est-à-dire que moi, un de mes films préférés de tout genre, tout confondu, c'est Rango. J'ai quasiment retrouvé ça là, notamment avec tout ce qui est le passage sur les reptiles et tout. Alors Rango, il y a vraiment eu un travail de restitution d'animaux très très crades et moches du désert de Morave, et là ça reste très coloré, très beau et tout, mais on a vraiment ici quelque chose qui fait que Par contre, je trouve que du coup le personnage, enfin le serpent est un peu raté. Je trouve qu'il détonne un petit peu cette espèce de vipère bleue. Je la trouve moche en fait.
Ouais. Enfin, non mais carrément, et pas très détaillé, enfin moins voilà. agréable à regarder
ça
que le
fait,
reste. Quoi.
Ça fait cartoonesque, qui n'est pas un souci, mais qui détonne vraiment par rapport à notamment ce travail de précision sur le sur les personnages. Après, c'est clair, par exemple, que ça n'a pas du tout la puissance poétique de Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, dont on avait parlé l'année dernière, qui est beaucoup plus calme et qui prend le temps d'instaurer des univers, justement. Mais c'était assez intéressant, justement, moi, ce travail-là.
Oui, même sur l'architecture de Zootopie, j'ai adoré la maison du serpent, ou le petit détail, pareil, que c'est comme pour prendre la taille des enfants où on met sur le mur, bah là c'était en longueur. Avec les enfants. Enfin, c'est des tout petits trucs, mais je trouvais ça super bien pensé. Et je trouve qu'il y avait quand même pas mal d'autodérision aussi avec les personnages principaux, par exemple. Je sais pas si vous êtes un peu sur la fanbase et le Insta Zootopie, mais...
Plutôt pas, mais je devrais...
je suis curieux.
Tout le monde, évidemment, fait des petits edits avec Judy et Nick. Voilà, imagine même les enfants de Judy et Nick. Et ça
en
a
même
été.
Temps, il faut qu'ils s'embrassent.
Ouais, à un moment, c'est. Voilà, chose, c'est...
voilà, tout le monde attend ça. Et justement, il y a la scène du début où ils jouent un couple avec une poussette et qu'il y a. C'est un fourmilié qui leur dit un lapin et un renard, vraiment. Bon, j'avais trouvé ça rigolo aussi.
Ouais, tout à fait. Non, il y a vraiment ce dialogue. En fait, avec la fanbase, justement, qui a eu le temps en 9 ans de réfléchir à ça. Mais cette durée, elle est à la fois un plus parce que, comme pour les Indestructibles 2 qui étaient arrivés, mais bon, alors là, je sais pas, 15 ans, je crois, après le premier, mais donc il y avait un travail de précision sur le détail, à la fois des petits trucs discrets, comme tu le disais, Elise, sur la taille mesurée à l'horizontale et non plus à la verticale, mais aussi sur les textures, sur beaucoup de choses. Et en même temps, cette durée, elle est un peu étrange si on regarde bêtement en termes de scénario, parce que tu te dis, non, mais enfin. Si on se dit vraiment que ça fait une semaine, la ville vient d'être sauvée de, en gros, sa destruction une semaine avant, et là c'est de nouveau exactement la même chose, et d'un coup il y a plein de grands événements qui arrivent, genre le centenaire de Zootopie, on n'en avait pas du tout entendu parler dans le film d'avant, là on est une semaine plus tard, il y a des panfares, il y a des trucs. Bon, c'est ça qui fait que moi j'ai eu un petit peu aussi de mal à rentrer dedans tout de suite, et quand en sortant j'étais en mode, mais ça n'avait aucun intérêt. Et en fait, ça en a, aussi pour les raisons que tu as évoquées, Juliette, que ça a un propos sur le monde actuel. Ça m'a pas mal intéressé aussi.
Et moi j'ai trouvé que l'évolution des personnages était assez bonne. Enfin, en fait, j'avais vraiment pas l'impression. Enfin, de toute façon, moi j'adore le cinéma d'animation, donc j'ai jamais l'impression de juste regarder des. Enfin, quand je regardais bon cinéma, des bons films, j'ai jamais l'impression d'être devant un truc con juste destiné à des enfants. Mais ça peut plus arriver face à des Disney ou des Pixar par exemple. Que je sais pas, des Miyazaki quoi, mais là pas du tout, enfin j'avais pas l'impression que c'était que je sais pas, les personnages étaient uniquement des archétypes. Enfin, je trouvais que, genre par exemple justement dans cette scène qui est censée être la scène un peu émotive du film que j'ai évoqué tout à l'heure, où ils se disent qu'ils tiennent l'un à l'autre et tout, je trouvais ça marrant. Enfin, c'était sur une DA communication, vraiment post-psy, mais je trouvais ça hyper fun. Et
ouais, non, c'était cool.
Et enfin, franchement, genre, c'était, je sais pas, du coup, comment ils communiquaient, ils s'ouvraient pour la première fois, enfin, avec les confessions aussi de Nick, par exemple, qui s'est jamais ouvert à personne, du coup, c'est un peu dur, et du coup, il le fait de manière un peu maladroite. Bah, en fait, j'ai trouvé ça hyper juste, et du coup, ça m'a permis de, bah, justement, d'être cliente de cette scène qui arrive forcément dans ces films Disney où voilà, c'est le moment un peu émotion. Bah, en fait, je trouve qu'il marche très bien. Et oui, et en plus de ça, c'est vrai que tous les détails, enfin là, je vous rejoins totalement, genre tous les détails partout des espèces, mais moi, le pelage du lapin, mais je l'adore. Enfin, genre, fois, je regardais juste ses pattes parce que j'étais en mais c'est tellement bien fait, c'est impressionnant. Enfin, c'est aussi très propre et très agréable visuellement. Donc, voilà, bon, après, évidemment, ça reste lisse. Voilà, je faisais une vanne sur le fait que c'était un film pro-palestinien, n'allons pas jusqu'à la fin, Disney ne le programme pas comme ça, mais voilà, enfin, même s'il y a des sujets intéressants qui sont abordés, ils sont faits d'une manière pas nuancée ni problématisée, mais voilà, mais je trouve que ça empêche pas de passer un bon moment.
Tout à fait.
Et ouais, je suis vraiment d'accord avec toi pour la scène finale, un peu émotion. Justement, ça fait, enfin, comment dire, dans des Disney peut-être plus vieux, ça serait peut-être résolu par une scène de bisous. Oui, et là, sûr. On a une scène où ils communiquent, ils sont pleinement honnêtes, pleinement à l'écoute. Donc, je trouve que c'est un... Enfin, ouais, c'est un chouette moment. Et en plus, quand on regarde par rapport au début du film, où quand ils arrivent dans le groupe un peu de parole, là, pour un duo dysfonctionnel, qui est très drôle, c'est d'ailleurs. Très drôle, ouais, complètement. Bah, moi, je me suis dit, OK, bon, bah, ils vont peut-être rien en faire. Enfin, c'est juste pour le gag. Et non, enfin, vraiment...
Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a un peu comme il y avait dans Vice Versa 2, mais c'était une suite qui m'avait moins plu, en fait, je pense, que celle-ci par rapport au premier, dans les deux cas. Mais en tout cas, un intérêt porté à des questions de, avec des gros guillemets, de psychologie, qui ne sont pas inintéressantes dans des films Disney, dans des films pour enfants. Quand on voit aussi, il y a plein de films Disney qui sont ou des live action, genre le Lilo et Stitch, ou ça, qui n'ont pas d'intérêt. Là, on sent vraiment que le temps a été pris et qu'il y a de la qualité au rendez-vous. C'est ce que tu disais, Juliette, aussi, sur le fait que, ils ont taffé, quoi, tout simplement, les animateurs et animatrices. Moi, la scène de poursuite à la fin, qui vient après la scène de réconciliation, où en gros, ils poursuivent le méchant du film, et ils se battent, en fait, et hyper bien faite. Enfin, je trouve vraiment que elle est hyper bien rythmée, bien montée en fait aussi, et sans être caricaturale ni rien. Enfin, on se prend vraiment à ce jeu-là. Et oui, ça c'est ce qui, comment dire, ouais, le film est de bonne qualité, aussi. Et arrive à parler doublement. C'est quelque chose qu'on avait reproché un peu, par exemple, à Kung Fu Panda 4, quand on en avait parlé à cette tribune. Et à un public très enfantin, je pense, qui pourra être complètement séduit par les couleurs, par le côté iPad Kid que tu disais, Élise. Mais aussi, de nous parler tout, dans les références et tout. J'ai trouvé ça... La scène de référence à Shining est vraiment très 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 drôle. Là,
j'ai
dans
vu
le...
c'est ça, mais moi j'ai pas vu Shining, du coup je sais pas à quel moment.
C'est le labyrinthe. C'est la scène du labyrinthe où en gros le méchant va dans le labyrinthe comme à la fin de Shining, Jack Nicholson. Et je soupçonne même les designers du personnage de lui avoir mis ce pull spécifiquement pour les 10 secondes de citation explicite de Shining, mais c'est super drôle. Il y a la musique de Shining, il y a les mêmes plans en fait que dans le film de Kubrick. Donc c'est vraiment ça m'a vraiment réjoui. Mais je trouve aussi qu'en fait le jeu d'équilibriste dans la niaiserie nécessaire à ce genre de film est réussi. On a donc parlé de cette séquence de réconciliation entre les deux partenaires qui s'étaient brouillés, parce qu'évidemment il faut qu'il y ait quand même ce genre de petite tension dramatique, narrative et tout. Mais y en a en gros trois des moments un peu niais, dans ce genre-là. Il y a au tout début, lorsque le chef Bogo parle à Judy, il a une espèce de discours motivationnel et tout, il y a de la musique, il y a une golden hour qui leur tombe dessus et tout, et d'un coup, en fait, on se rend compte que hors champ, il y avait Nick qui fait une vanne dessus, qui dit « je devrais peut-être pas être là », enfin, du coup, ça décrédibilise un petit peu ça. Il y a une scène de tension où il se brouille. Bon, là, c'est un petit peu plus vraiment caricatural, genre la maison s'effondre, la relation aussi, nanana. Mais effectivement, la scène donc, dont on a déjà parlé est là, pour le coup, beaucoup plus réussie. Et déjoue, comme tu disais, Élise, les clichés de ce genre de réconciliation-là. Quoi.
Et puis, on a un héros Disney qui dit qu'elle a le symptôme du héros, tout prendre sur ses épaules. C'est super drôle.
Oui, ça, c'est vrai. Ça fait partie du second degré que tu évoquais aussi. Quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Et par contre, la scène du chalet, en plus c'est le chalet de l'amour, tout en haut de la montagne de la difficulté.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai que c'est un chou cliché, mais bon, il en faut aussi, je pense, pour marquer les esprits.
Non, mais c'est vrai qu'on s'attendait pas d'une manière à... Enfin, moi, en tout cas, je m'attendais pas à avoir un film cliché de manière... Mais c'est sûr que dans le cliché, c'est réussi. Et j'ai bien aimé le parallèle que t'as fait avec Vice Versa, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que dans les dernières années... où j'ai vu des Disney ou des Pixar, enfin en tout cas ces films d'animation à très très gros budget, je pense que celui qui m'avait plus c'était Vice Versa, mais parce que...
Un ou deux
Moi le 1 je l'avais adoré, le 2 je l'avais un peu moins aimé, mais j'ai quand même pleuré devant. Bon, je pense que les deux m'ont quand même un peu convaincu. Alors que je pleurais pas beaucoup devant les films à cette époque-là, donc c'était quand même un peu intense comme moment de cinéma pour ma part. Mais oui, et ce que j'avais beaucoup aimé dans Vice Versa, moi, ce que je trouve beaucoup plus réussi, hein, d'ailleurs dans Vice Versa que dans Utopie, c'est justement cette compréhension des émotions, de chercher à mettre des mots dessus, etc. Et parce qu'en fait, c'est la même chose, mais c'est hyper bien de faire des films comme ça qui sont destinés à des enfants, quoi. Mmh. Et du coup, de le retrouver dans Utopie, dans un film dans lequel je m'attendais un peu moins justement à qu'il y ait ce truc un peu, je sais pas, psy. Je trouvais ça très plaisant. Bon, rien ne sera aussi bien que vice-versa, encore une fois, mais bon, c'est un bel effort vers ça, en tout cas, je trouvais.
Oui, je suis bien d'accord. Et je trouve qu'effectivement, il y a vraiment là un décalage en qualité entre, bon, même des films que j'avoue je n'ai pas vus, mais dont j'ai vu des reviews, dont j'ai vu des extraits, comme les derniers films des studios d'animation Walt Disney, qui étaient genre Wish. Alors ça, je ne sais même pas ce que c'est, Strange World. Voilà. Encanto, Raya et le dernier dragon, c'est des trucs qui, ou même La Reine des Neiges 2, des films qui effectivement fonctionnaient plus sur des formules que là. Alors même si elle reprend en fait en partie la formule du premier film, et comme tu l'as dit, Élise, il y a le reveal du méchant et tout, je trouve que il arrive quand même à aborder des questions territoriales qui n'avaient pas beaucoup dans le premier. Dans le premier, c'était vraiment plus un mode cohabitation entre prédateurs et proies. Comment est-ce qu'ils font? Et on va aller aborder directement ce sujet que les films anthropomorphiques abordent pas trop d'habitude. En fait, il y a ce truc, mettons Robin des Bois, par exemple. Bon, le fait que ce soit un renard, un poule, enfin, ils se mangent pas les uns les autres, quoi. Ils s'entendent tous bien. Là, le film te dit, on a une ville où tous les animaux marchent ensemble. C'est bizarre. Expliquons pourquoi. Et donc là il fait autre chose, mais comme tu dis, j'étais assez frustré sur la question des territoires à explorer, parce qu'on a en gros le désert, le marais et Tundra Town qu'on avait un peu vu dans le premier, mais qui sont effectivement un peu dommagement de manière dommage un peu laissés de côté.
Ouais, et ça, j'ai trouvé ça cool, enfin le point que t'as noté. Le fait que on garde la, parce qu'il y avait aussi déjà une dimension politique dans le 1, enfin clairement le racisme, voilà, quand elle Judy Hopps lui dit ah mais non, mais toi t'es pas comme eux, enfin bref, voilà, et mais ils ont pas repris exactement la même question, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien.
C'est bon.
Voilà. C'est bon pour moi.
Eh ben super, merci beaucoup. Voilà, petit débat, mais intéressant quand même toujours. Et puis c'est chouette effectivement d'évoquer. Alors bon, c'est un film Disney, mais de temps en temps quand même de faire un peu d'animation, que ce soit en chronique ou en débat. Après donc, Duel à Monte Carlo des Norte ou Kung Fu Panda 4 ou Flo.
Ou le secret des mésanges aussi.
Ou le secret des mésanges, absolument, super. Absolument, que tu avais chroniqué ici. En attendant, peut-être d'autres pour la suite, pour l'année 2026.
On l'espère.
Avant de conclure l'émission, nous allons vous donner nos conseils. On commence avec toi, Juliette.
Oui, ma recommandation porte sur la Cinéthèque, comme toujours, puisqu'il y a un sort d'hommage qui est fait en ce moment à Michel Piccoli, donc super acteur déjà, et qui m'a permis de découvrir, bon déjà qui m'a permis de voir Les Choses de la Vie, incroyable, bon ça voilà. Mais je voulais quand même faire une recommandation un tout petit peu plus niche, qui est Milou en mai de Louis Malle, qui est absolument fantastique. Donc on voit Michel Piccoli, et en fait ça raconte mai 68, mais dans la campagne du point de vue d'une famille bourgeoise dont la grand-mère vient de décéder. Donc en fait ils se retrouvent pour cet enterrement, mais en même temps il y a toutes les révoltes qui se passent. Donc évidemment ils ont un point de vue particulier sur la question en tant que famille bourgeoise, voilà, à la campagne, mais finalement ils commencent un peu à ensuite se prendre dans dans cette énergie révolutionnaire, à siffler l'international au fur et à mesure, enfin voilà, et après ça devient de plus en plus barré parce que c'est Louis Malle et c'est fantastique, voilà, je le recommande absolument, je trouve qu'il est absolument génial.
Et c'est qui joue Tintin, du coup?
Qui joue Tintin?
Oui,
c'est qui Tintin?
Milou.
Ah, pardon.
pardon.
En mode, Michel, qu'est-ce qu'il a fait encore
Non, mais je ne peux que effectivement aller dans le sens de tes recommandations. Déjà, abonnez-vous à la Cinéthèque si ce n'est pas fait. Ça coûte 19 euros par an si vous êtes étudiante. Et Les Choses de la Vie, c'est bon, bah, pas très original, mais un de mes films préférés. Donc aussi pour ça, allez voir Le Focus, Michel Piccoli, sur la Cinéthèque. C'est disponible pour un mois, quelque chose comme ça, je crois. Aubry, ta recommandation pour la semaine.
Pour une fois, un conseil spécial lyonnaise, parce que en fait, moi, je vais vous recommander d'aller jeter un coup d'œil à la fin de la rétrospective consacrée à Edward Yang, réalisateur taïwanais des années 80-90 et qui est décédé malheureusement dans les années 2000. Prématurément. Et donc la rétrospective assez brève que lui consacre l'Institut s'achève là toute fin décembre. Il reste plus beaucoup de films, mais il en reste un qui vaut assurément le coup d'œil et pour lequel il reste deux ou trois séances. C'est Yiyi, qui est sans doute son film le plus connu, qui lui a valu le Grand Prix ou le Prix du Jury à Cannes en 2000. Que moi j'ai pu découvrir ce week-end, en même temps qu'un autre de ses très grands films, Brighter Summer Day. Yiyi, c'est une fresque de 3 heures qui suit une famille sur, enfin, qui suit plusieurs générations d'une même famille dans une même temporalité, et qui en fait juste peint pendant 3 heures la vie d'une façon, avec une justesse que moi j'ai rarement vue en fait sur un écran. C'est-à-dire qu'on se prend dans cette espèce de rythme qui au fond est aucun autre rythme que celui de la vie quelque part. On se prend dans ces histoires d'individualité et de collectivité qui se croisent, qui se mêlent et se démêlent. C'est complètement fascinant, c'est hypnotisant, la musique est sublime, toutes les performances du casting sont géniales, la mise en scène d'Edward Yang est elle aussi assez folle. Enfin, il y a un travail du cadre parce que c'est beaucoup du plan fixe. Enfin, il y a quelques panoramiques, mais c'est beaucoup de plan fixe et assez génial. Et ouais, en fait, on va voir ça, on en ressort avec très 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 peu de mots, beaucoup de larmes, et en fait, je pense qu'on saisit à peine les répercussions que ça peut avoir dans notre petit cœur de cinéphile. Donc voilà, Yiyi et Edward Yang, foncez découvrir ça tant que ça reste à l'Institut Lumière.
Merci beaucoup, Aubry, et effectivement, je vais essayer de voir ça. Il reste notamment des séances le 27 décembre,
et le 31
décembre, ouais. Et ce dimanche 7, non, c'est passé, j'ai rien dit. Et toi, Élise, ton conseil pour la semaine ?
Alors, j'ai pas de recommandation cinématographique pour cette semaine, mais plutôt une expo à Lyon qui a été inaugurée, il me semble, à l'occasion d'un vernissage étudiant la semaine dernière, qui s'appelle Étretat par-delà les falaises au Musée des Beaux-Arts, avec des artistes comme Courbet, Monet, et qui m'a fait penser à ce mauvais film d'époque de l'année dernière, L'Avenue de l'Avenir, sur l'impressionnisme. Voilà, donc si vous avez été déçu par L'Avenue de l'Avenir, allez voir Étretat par-delà les falaises.
Pardon. Merci beaucoup. Exposition curatée notamment par Sylvie Ramon, que l'on salue ici. Enfin, pour ma part, mon conseil, il n'est pas très original, mais... celle de découvrir le travail du cinéaste britannique Ben Rivers, qui était venu à l'ENS la semaine dernière pour donner une masterclass aux étudiants et étudiantes de cinéma, et en partenariat avec l'École nationale supérieure des beaux-arts, sur les quais du Saône, là. Et le travail de Ben Rivers, que je ne connaissais pas, hein, évidemment, avant de m'inscrire à cette masterclass, c'est assez fabuleux. C'est un cinéaste donc, qui travaille en 16 mm, donc en pellicule, qui fait des films d'une beauté assez hallucinante, en réalité, que ce soit des courts-métrages, des longs-métrages. Vraiment, c'est fabuleux. C'est fabuleux et je ne peux que vous... c'est parfois ça confine à l'abstraction dont on parlait plus tôt dans l'émission, mais dans un genre évidemment bien différent, sur les formes, sur la matière, de jeu avec la matérialité de la pellicule. Et ça c'est juste vraiment trop trop beau. Il s'interroge aussi, mais très modestement, très... aimablement aussi, ce qui est rare pour un cinéaste expérimental, sur ce qu'il fait, sur son rôle de cinéaste, sur son médium, sur la façon dont le 16 mm peut à la fois être en même temps une technologie du passé et peut-être l'horizon d'un cinéma futur. Non, vraiment, c'est super. Alors, ces films ne sont pas trop disponibles, en réalité, sur YouTube. Mais si vous avez envie de passer un bon moment et que vous avez un lecteur Blu-ray, ce qui n'est pas mon cas, mais que on vous demande ce que vous voulez pour Noël, vous pouvez aller sur son site où il y a deux Blu-ray, un de ses derniers longs métrages que je n'ai pas encore vu, et puis un avec une compilation de plein de courts métrages choisis par lui. Voilà, il faut bien choisir évidemment un DVD toute zone et pas un zone 1, sinon il ne pourra pas se visionner hors de l'Angleterre. Bref, c'est super bien. Vous voyez les films de Ben Rivers, le lien de son site est dans la bio de l'épisode. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci énormément à tous les trois. Aubry, Juliette et Élise pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier numéro de 2025 et donc pour le dernier épisode avant la pause de mi-saison. On parlera du mastodonte chinois Résurrection et on fera le bilan d'une sacrée année cinématographique. Tout cela sera comme d'habitude disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.